Chapitre 24. Le fabricant de baguettes. C'était comme replongé dans un ancien cauchemar. Pendant un instant, il se crut agenouillé auprès du corps de Dumbledore, au pied de la plus haute tour de Poudlard, mais en réalité, il contemplait un minuscule cadavre recroquevillé dans l'herbe, percé par le poignard d'argent de Bellatrix. La voix de Harry continuait de murmurer « Dobby, Dobby !» bien qu'il sût que l'elfe était parti, quelque part d'où il était impossible de le faire revenir. Une minute plus tard, il s'aperçut qu'ils étaient finalement arrivés au bon endroit, car Bill, Fleur, Dean et Luna s'étaient rassemblés autour de lui, alors qu'il était toujours agenouillé à côté de l'elfe. « Hermione » dit-il soudain. « Où est-elle ? » ?»«
Ron l'a amenée dans la maison, » répondit Bill.
« Elle se remettra. » Harry baissa à nouveau les yeux vers Dobby. Il tendit la main et arracha de son corps la lame tranchante du poignard, puis il retira son propre blouson et l'étala sur l'elfe comme une couverture. Quelque part, à proximité, la mer se fracassait contre des rochers. Harry l'écouta pendant que les autres parlaient, discutant de sujets auxquels il ne pouvait s'intéresser, prenant des décisions. Dean porta Gripsec, blessé, à l'intérieur du cottage, suivi de Fleur qui se hâtait derrière eux. Bill suggérait à présent des dispositions pour enterrer l'elfe. Harry approuva sans vraiment comprendre ce qu'il disait, tout en lui répondant machinalement. Il gardait les yeux fixés sur le corps minuscule. Sa cicatrice se mit à le picoter, à le brûler, et dans une partie de son cerveau, comme vu du mauvais côté d'un long télescope, il aperçut Voldemort qui punissait ceux qu'ils avaient laissés derrière eux au manoir des Malfoy. Sa rage était épouvantable, mais le chagrin que Harry éprouvait pour Dobby semblait la diminuer. Elle ne devint plus alors qu'un orage lointain dont les échos arrivaient jusqu'à lui par-delà un vaste océan silencieux.
« Je veux que ce soit fait dans les règles. »
Ce furent les premières paroles que Harry fut pleinement conscient de prononcer.
« Pas avec de la magie, » ajouta-t-il. « Tu as une pelle ?»
Peu après, il s'était mis au travail, creusant la tombe à l'endroit que Bill lui avait indiqué, au bout du jardin, entre les buissons. Il creusait avec une sorte de fureur, se délectant de ce travail manuel, fier de ce qui n'est rien de magique, car il ressentait chaque goutte de sueur, chaque ampoule de ses mains, comme un cadeau offert à l'elfe qui leur avait sauvé la vie. Sa cicatrice continuait de le brûler, mais il maîtrisait la douleur. Bien qu'il la ressentît, elle était comme séparée de lui. Il parvenait enfin à se contrôler, à fermer son esprit à Voldemort, ce que Dumbledore voulait précisément qu'il apprenne de Rogue. De même que Voldemort n'avait pas réussi à posséder Harry pendant qu'il se consumait de chagrin pour Sirius, de même, ses pensées ne pouvaient pénétrer son esprit en cet instant où il pleurait Dobby. La peine qu'il éprouvait semblait chasser Voldemort de sa tête. Mais Dumbledore aurait dit, bien sûr, que c'était plutôt l'amour. Harry continua de creuser de plus en plus profondément dans la terre, dure et froide, noyant sa peine dans la sueur, niant la douleur de sa cicatrice. Dans l'obscurité, sans rien d'autre pour lui tenir compagnie que le bruit de sa respiration et celui des vagues, tout ce qui s'était passé chez les Malfoy lui revint à l'esprit. Il se souvint des paroles entendues et commença à comprendre, comme si une fleur s'épanouissait en lui sous le ciel sombre. Le rythme régulier de ses bras ponctuait ses pensées comme battant la mesure. Relique, horcrux, relique, horcrux. Mais il ne sentait plus brûler cet étrange et obsédant désir. Le deuil, la peur, l'avaient éteint. Il avait l'impression d'avoir été réveillé à coups de gifle dans la figure. Harry creusait, s'enfonçant de plus en plus dans la tombe.
Il savait où était allé Voldemort ce soir-là. Qui il avait tué dans la plus haute cellule de Nuremberg. Et pourquoi? Il pensa alors à Queutevert, mort pour avoir eu un faible élan de pitié inconsciente. Dumbledore avait prévu cela. Qu'avait-il su encore? Harry perdait la notion du temps. Lorsqu'il fut rejoint par Ron et par Dean, il vit seulement que la nuit s'était un peu éclaircie. « Comment va Hermione ?»«
Mieux, »
répondit Ron.
« Fleur s'occupe d'elle. »
Harry avait sa réponse prête pour le moment où il lui demanderait pourquoi il ne s'était pas tout simplement servi de sa baguette magique pour créer une tombe qui aurait été parfaite. Mais il n'en eut pas besoin. Armés, eux aussi de pelles, ils sautèrent dans le trou et tous trois creusèrent en silence jusqu'à ce que la fosse leur semble suffisamment profonde. Harry serra Dobby plus étroitement dans son blouson. Ron s'assit au bord de la tombe et enleva ses chaussures et ses chaussettes qu'il passa aux pieds nus de l'elfe. Dean sortit un bonnet de laine dont Harry coiffa avec soin la tête de Dobby, recouvrant ses oreilles de chauve-souris.
Faudrait lui fermer les yeux?
Harry n'avait pas entendu les autres arriver dans l'obscurité. Bill portait une cape de voyage, Fleur, un grand tablier blanc, avec une poche d'où dépassait une bouteille qu'il reconnut comme étant du Poussos. Hermione, pâle et vacillante, était enveloppée dans une robe de chambre qu'elle avait empruntée. Lorsqu'elle s'approcha de lui, Ron passa un bras autour de ses épaules. Luna, emmitouflée dans un manteau de fleurs, s'accroupit et posa tendrement les doigts sur les paupières de l'elfe qu'elle abaissa sur son regard vitreux.
« Voilà, »
dit-elle avec douceur.
« Maintenant, c'est comme s'il dormait. »
Harry allongea l'elfe dans la tombe, disposa ses membres minuscules de façon à donner l'impression qu'il se reposait, puis ressortit de la fosse et regarda le petit corps pour la dernière fois. Il s'efforça de contenir son émotion en se rappelant les funérailles de Dumbledore, les rangées interminables de chaises, le ministre de la magie au premier rang, la longue liste des hauts faits du défunt, la majesté de la tombe de marbre blanc. Il sentait que Dobby méritait un enterrement tout aussi solennel, et pourtant, l'elfe était simplement étendu là, entre des buissons, dans un trou grossièrement creusé.
« Je crois que nous devrions prononcer quelques mots, »
suggéra Luna.
« Je vais commencer, d'accord ?»
Sous les regards qui s'étaient tournés vers elle, elle s'adressa à l'elfe mort au fond de sa tombe.
« Merci, Dobby, de m'avoir arraché de cette cave. Il est tellement injuste que tu aies dû mourir alors que tu étais si bon, si courageux. Je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour nous. J'espère que tu es heureux à présent. »
Elle se tourna vers Ron, attendant qu'il parle à son tour. Celui-ci s'éclaircit la gorge et dit d'une voix rauque
« Ouais, merci Dobby. »
« Merci, » marmonna Dean.
« Adieu, Dobby, »
murmura Harry. Il fut incapable d'ajouter autre chose, mais Luna avait déjà tout dit à sa place. Bill brandit sa baguette et le tas de terre accumulé au bord de la tombe s'éleva dans les airs, puis retomba dans la fosse, se transformant en un petit tertre rougeâtre.
« Ça vous ennuie pas que je reste ici un petit moment ?»
demanda Harry aux autres. Ils murmurèrent des paroles qu'il ne comprit pas, et il sentit qu'on lui donnait de petites tapes dans le dos. Les autres retournèrent alors vers le cottage, d'un pas lourd, laissant Harry seul à côté de l'elfe. Il jeta un regard alentour. De grosses pierres blanches, polies par la mer, entouraient les massifs de fleurs. Il ramassa l'une des plus grosses et la plaça telle un oreiller à l'endroit où reposait à présent la tête de Dobby. Il tâtonna ensuite dans sa poche à la recherche d'une baguette. Il y en avait deux. Harry avait oublié
perdu le fil des événements. Il ne se souvenait plus à présent à qui avaient appartenu ces baguettes. Il se rappelait vaguement les avoir arrachées des mains de quelqu'un. Il choisit la plus courte des deux, qui semblait plus accommodante entre ses doigts, et la pointa sur le roc blanc. Lentement, à mesure qu'il murmurait ses instructions, de profondes entailles apparurent à la surface de la pierre. Il savait qu'Hermione aurait pu le faire avec plus de netteté et sans doute plus vite. Mais il voulait marquer lui-même l'endroit, tout comme il avait creusé lui-même la tombe. Lorsque Harry se releva, on pouvait lire sur la pierre « Sigi, Dobby, elfe libre ». Il contempla son ouvrage pendant quelques secondes, puis s'éloigna, sa cicatrice le picotant encore un peu. L'esprit rempli de toutes les pensées qui lui étaient venues pendant qu'il creusait la fosse, des idées qui avaient pris forme dans l'obscurité, des idées à la fois fascinantes et terribles. Lorsqu'il entra dans le petit vestibule du cottage, ils étaient tous assis dans le living room, écoutant avec attention ce que Bill était en train de leur dire. La pièce était jolie, avec des couleurs claires et des flammes vives brûlaient dans la cheminée. Harry ne voulait pas laisser de traces de boue sur le tapis et il resta sur le seuil à écouter. Une chance que Ginny soit en vacances. Si elle avait été à Poudlard, ils auraient pu venir la prendre avant que nous ayons eu le temps d'intervenir. Maintenant, nous sommes sûrs qu'elle aussi est en sécurité. Bill se retourna et vit Harry, debout, à l'entrée du living room. « Je les ai tous sortis du terrier, » expliqua-t-il. « Ils sont installés chez Muriel. Maintenant que les mange-morts savent que Ron est avec toi, ils vont sûrement s'en prendre à la famille. « Non, non, ne t'excuse pas, » ajouta Bill en voyant l'expression de Harry. « Depuis des mois, papa disait que ce n'était plus qu'une question de temps. Nous sommes la plus nombreuse famille de traîtres à leur sang qui existe. » « Comment sont-ils protégés ?» demanda Harry. « Par le sortilège de Fidelitas. Papa est le gardien du secret. Nous avons fait la même chose avec le cottage. Ici, c'est moi le gardien. Aucun d'entre nous ne peut retourner travailler, mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Quand Ollivander et Gripsec iront mieux, nous les enverrons également chez Muriel. Il n'y a pas beaucoup de place ici, mais chez elle, c'est très grand. Les jambes de Gripsec sont en train de guérir. Fleur lui a donné du poussos. On devrait pouvoir les déplacer tous les deux dans une heure ou... Non ! L'interrompit Harry. Bill parut interloqué. Et j'ai besoin qu'ils restent ici tous les deux. Je dois leur parler, c'est important. Harry perçut lui-même le ton autoritaire de sa voix, la conviction, la détermination qu'il avait senti monter en lui lorsqu'il creusait la tombe de Dobby. Tout le monde le regardait, l'air déconcerté. « Je vais me laver, » dit-il à Bill, en regardant ses mains toujours couvertes de boue et du sang de Dobby. « Après, il faudra que je les voie tout de suite. » Il pénétra dans la petite cuisine et s'approcha de l'évier installé sous une fenêtre qui donnait sur la mer. L'aube perçait à l'horizon, légèrement dorée, d'un rose de nacre, et tandis qu'il se lavait les mains, il suivit à nouveau le fil des pensées qui lui étaient venues à l'esprit dans le jardin obscur. Dobby ne pourrait plus jamais leur révéler qui l'avait envoyé dans la cave. Mais Harry, lui, savait ce qu'il avait vu. Un œil bleu au regard perçant qu'il avait regardé dans le fragment de miroir. Ils avaient alors reçu de l'aide. À Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Harry se sécha les mains, indifférent à la beauté du paysage qu'il voyait par la fenêtre et aux murmures qui provenaient du living room. Il regarda l'océan et sentit en cet instant, où l'aube se levait, qu'il se rapprochait du but, que la clé de tout était plus près de lui. Il continuait de ressentir des fourmillements dans sa cicatrice et il savait que Voldemort parvenait aux mêmes conclusions. Tout à la fois, Harry comprenait et ne comprenait pas. Son instinct lui disait une chose et son cerveau une autre, très différente. Le Dumbledore présent dans sa tête lui souriait, le regardant par-dessus ses mains jointes, comme en une prière. Vous avez donné à Ron le déluminateur, vous aviez compris qui il était, et vous lui avez fourni le moyen de revenir. Vous aviez également compris que Dver, vous saviez qu'il y aurait quelque part en lui une parcelle de regret. Et si vous les connaissiez, eux, que connaissiez-vous de moi, Dumbledore? Suis-je destiné à savoir, mais non pas à chercher? Songiez-vous à quel point cela serait ardu pour moi? Est-ce pour cette raison que vous avez tout rendu si difficile, pour me donner le temps de comprendre par moi-même? Harry resta debout, immobile, ses yeux éteints fixés sur l'horizon où un soleil éclatant dévoilait ses contours dorés. Puis il regarda ses mains propres et fut momentanément surpris de voir le torchon qu'il tenait entre ses doigts. Il le posa et retourna dans le vestibule. Il sentit alors sa cicatrice palpiter de colère et, en un éclair aussi bref que le reflet d'une libellule à la surface de l'eau, il vit en pensée la silhouette d'un édifice qu'il connaissait très bien. Bill et Fleur étaient au pied de l'escalier.
« Il faut que je parle à Gripsec et à Ollivander, » dit Harry.
« Non, non, Harry, » répondit Fleur. « Oh là, pas maintenant. Ils sont malades et fatigués. »«
Désolé, » répliqua-t-il sans s'énerver, « mais je ne peux pas attendre. Il faut que je leur parle tout de suite, en privé et séparément. C'est urgent. »
« Enfin, Harry, que se passe-t-il ? » demanda Bill. « Tu arrives ici avec un elfe mort et un gobelin à moitié assommé. Hermione a l'air d'avoir été torturée et Ron vient de refuser de me dire quoi que ce soit. »«
Nous ne pouvons pas te révéler ce que nous faisons, » déclara Harry d'un ton catégorique.
« Tu es membre de l'ordre, Bill. Tu sais que Dumbledore nous a confié une mission. Nous ne sommes pas censés en parler à quiconque d'autre. »
Fleur laissa échapper une exclamation irritée, mais Bill ne lui accorda pas un regard. Il fixait Harry. L'expression de son visage profondément tailladé était difficile à interpréter. Enfin, il lui dit
« Très bien.
À qui veux-tu parler en premier ?»
Harry hésita. Il savait ce qui était suspendu à cette décision. Le temps manquait. Le moment était venu de choisir Horcrux ou Relique.
« Gripsec, » répondit Harry. « Je vais parler à Gripsec en premier. »
Son cœur battait à tout rompre, comme s'il venait de courir pour sauter par-dessus un énorme obstacle.
« Alors montons là-haut, » dit Bill, en passant devant lui. Harry gravit plusieurs marches, puis il s'arrêta et jeta un coup d'œil derrière lui.
« J'ai aussi besoin de vous, » lança-t-il à Ron et à Hermione, qui s'étaient approchés silencieusement de la porte du living room, à moitié caché dans l'ombre. Ils avancèrent tous deux dans la lumière, l'air étrangement soulagé.
« Comment vas-tu ? » demanda Harry à Hermione. « Tu as été extraordinaire. Réussir à inventer cette histoire malgré tout ce qu'elle te faisait subir ?»
Hermione eut un faible sourire et Ron la serra contre lui, un bras autour de ses épaules.
« Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Harry ? » demanda-t-il.
« Vous verrez. Venez. » Harry, Ron et Hermione suivirent Bill dans l'escalier aux marches raides et ils arrivèrent à un petit palier sur lequel donnaient trois portes.
« Là, » dit Bill, ouvrant la porte de la chambre où ils dormaient Fleur et lui.
Cette pièce-là aussi faisait face à la mer, dont la surface était parsemée à présent des reflets dorés du soleil levant. Harry s'approcha de la fenêtre, tourna le dos à la vue magnifique et attendit, les bras croisés, sa cicatrice parcourue de fourmillements. Hermione s'installa à côté de la coiffeuse et Ron s'assit sur l'un des bras du fauteuil qu'elle occupait. Bill réapparut, portant le petit gobelin qu'il déposa précautionneusement sur le lit. Gripsec marmonna un
« Merci »
et Bill sortit, refermant la porte sur eux.
« Je suis désolé de vous sortir du lit, » dit Harry. « Comment vont vos jambes ?»
« Douloureusement, » répondit le gobelin. « Mais elles se remettent. »
Il tenait toujours serré contre lui l'épée de Gryffondor et affichait une étrange expression mi-intriguée, mi-agressive. Harry remarqua sa peau cireuse, ses doigts fins, ses yeux noirs. Fleur lui avait enlevé ses chaussures. Ses longs pieds étaient sales. Il était plus grand qu'un elfe de maison, mais pas de beaucoup. Sa tête bombée était en revanche beaucoup plus volumineuse que celle d'un humain. « Vous ne vous souvenez sans doute pas, » commença Harry.
« Que je suis le gobelin qui vous a amené dans votre chambre forte lors de votre première visite à Gringotts. »
acheva Gripsek.
« Et si je me souviens, Harry Potter, même chez les gobelins, vous êtes très célèbre. »
Harry et Gripsek s'observèrent, se jaugeant du regard. La cicatrice de Harry le picotait toujours. Il voulait que cet entretien finisse vite et, en même temps, il avait peur de commettre un impair. Alors qu'il essayait de trouver le meilleur moyen de formuler sa demande, le gobelin rompit le silence.
« Vous avez enterré l'elfe ?»
dit-il. Il y avait dans le ton de sa voix une rancœur inattendue.
Je vous ai vu depuis la fenêtre de la chambre voisine.
En effet, répondit Harry. Gripsek le regarda du coin de ses yeux noirs et bridés.
Vous êtes un sorcier inhabituel, Potter.
En quel sens ? Demanda Harry, qui massait sa cicatrice d'un air absent.
Vous avez vous-même creusé la tombe.
Et alors ? Gripsek ne répondit pas. Harry pensa qu'il se moquait de lui parce qu'il avait agi comme un moldu. Mais peu lui importait que le gobelin approuve ou non la façon dont il avait creusé la tombe de Dobby. Il se prépara à passer à l'attaque. « Gripsek, il faut que je vous demande... »«
Vous avez également secouru à un gobelin ?»«
Quoi ?»«
Vous m'avez amené ici. Vous m'avez sauvé la vie. »
« J'imagine que vous ne le regrettez pas, » répliqua Harry, avec un certain agacement.
« Non, Harry Potter, non, »
assura Gripsek. D'un doigt, il tortilla la fine barbe noire qu'il portait au menton.
« Mais vous êtes un sorcier très bizarre. »
« Admettons, » dit Harry. « En tout cas, j'ai besoin d'aide, Gripsek, et cette aide, vous pouvez me l'apporter. » Le gobelin ne lui donna aucun signe d'encouragement. Il continuait à regarder Harry en fronçant les sourcils comme s'il n'avait jamais vu quelqu'un de semblable. « J'ai besoin de pénétrer par effraction dans une chambre forte de Gringotts. » Harry n'avait pas eu l'intention de s'exprimer d'une manière aussi brutale. Les mots étaient sortis malgré lui de sa bouche sous l'effet d'une douleur cuisante de sa cicatrice et il vit à nouveau les contours de Poudlard. Il ferma étroitement son esprit. Il devait tout d'abord traiter avec Gripsek. Ron et Hermione avaient l'air de penser qu'il était devenu fou.
« Harry ?»
dit Hermione, mais elle fut interrompue par Gripsek.
« Pénétrer par effraction dans une chambre forte de Gringotts ?»
répéta le gobelin, qui grimaça légèrement en changeant de position sur le lit.
« C'est un peu impossible !»
« Non, pas du tout, » objecta Ron. « Quelqu'un l'a déjà fait. »« Oui, » dit Harry. « Le jour même où je vous ai rencontré pour la première fois, Gripsek. C'était le jour de mon anniversaire, il y a 7 ans. »«
La chambre forte en question était vide à l'époque, » répliqua sèchement le gobelin. « Et sa protection était minimale. »
Harry comprit que même si Gripsek avait quitté Gringotts, l'idée qu'on ait pu percer les défenses de la banque lui paraissait offensante. La chambre forte dans laquelle nous devons entrer n'est pas vide et je devine que ses protections doivent être très puissantes, reprit Harry. Elle appartient au Lestrange. Il vit Ron et Hermione stupéfaits échanger un regard, mais il aurait tout le temps de leur fournir des explications après avoir entendu la réponse de Gripsek.
« Vous n'avez aucune chance !»
déclara le gobelin d'un ton catégorique.
« Pas la moindre. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien. »
« Voleur, tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. » acheva Harry. « Oui, je sais, je m'en souviens. Mais je ne veux pas essayer de m'emparer d'un trésor. Je ne veux pas prendre quelque chose pour mon bénéfice personnel. Pouvez-vous croire cela ? Le gobelin lui jeta un regard en biais et la cicatrice en forme d'éclair brûla le front de Harry, mais il n'y prêta pas attention, refusant la douleur et ce à quoi elle l'invitait.
« S'il existait un sorcier dont je puisse penser qu'il ne cherche pas un bénéfice personnel, » dit enfin Gripsek, « ce serait vous, Harry Potter. Les gobelins et les elfes ne sont guère accoutumés à la solidarité ou au respect que vous avez manifesté cette nuit. Pas de la part des porteurs de baguettes. »
« Les porteurs de baguettes ?» répéta Harry. L'expression sonna étrangement à ses oreilles, tandis que sa cicatrice était parcourue de fourmillements. Il sentait Voldemort tourner ses pensées vers le nord du pays et lui-même brûlait de poser des questions à Ollivander dans la chambre voisine.
« Il a le droit de porter une baguette !»
poursuivit le gobelin à mi-voix.
« Longtemps a été un sujet de controverse entre sorciers et gobelins. »«
Les gobelins peuvent pratiquer la magie sans baguette, » fit observer Ron.
La question n'est pas là. Les sorciers refusent de partager les secrets de la fabrication des baguettes avec les autres êtres magiques. Ils nous dénient la possibilité d'étendre nos pouvoirs.
Les gobelins ne partagent pas non plus leur magie, rétorqua Ron. Vous ne nous avez jamais appris à fabriquer des épées et des armures telles que vous savez le faire. Les gobelins parviennent à travailler le métal d'une façon que les sorciers n'ont jamais... « Ça n'a aucune importance, » l'interrompit Harry, en remarquant les couleurs qui montaient aux joues de Gripsek. « Nous ne sommes pas là pour parler des conflits entre les sorciers et les gobelins ou toute autre créature magique. » Gripsek eut un rire mauvais.
« Mais si, justement, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant que le Seigneur des Ténèbres devient toujours plus puissant, votre espèce prend un ascendant de plus en plus grand sur la mienne. Et Gringotts est soumis à la loi des sorciers, les elfes de maison sont massacrés et qui, parmi les porteurs de baguettes, proteste contre cette situation ?
Nous !
S'exclama Hermione. Elle s'était dressée dans son fauteuil, le regard brillant.
Nous protestons. Et je suis tout autant opprimée qu'un gobelin ou un elfe, Gripsek. Je suis une sang de bourbe.
Ne t'appelle pas !
Marmonna Ron.
Et pourquoi pas ?
Coupa Hermione.
Je suis sang de bourbe et fier de l'être. Depuis le nouvel ordre des choses, je n'ai pas un rang supérieur au vôtre, Gripsek. C'est moi qu'ils ont choisi de torturer chez les Malfois.
Elle écarta le col de sa robe de chambre pour montrer la fine entaille que Bellatrix lui avait faite et dont la couleur écarlate ressortait sur son cou.
Saviez-vous que c'est grâce à Harry que Dobby est devenu libre ?
Demanda-t-elle au gobelin.
Saviez-vous que depuis des années, nous exigeons la libération des elfes ?
Ron se trémoussa d'un air gêné sur le bras du fauteuil d'Hermione.
« Vous ne pouvez souhaiter plus que nous la défaite de vous savez qui, Gripsek ?»
Le gobelin observa Hermione avec la même curiosité qu'il avait manifestée envers Harry.
« Qu'est-ce que vous cherchez dans la chambre forte des Lestrange ? »
interrogea-t-il brusquement.
« L'épée qui s'y trouve est un faux. La vraie, c'est celle-ci. »
Il les regarda tous les trois successivement.
Je crois que vous le savez déjà. Vous m'avez demandé de mentir pour vous quand nous étions là-bas.
Mais il n'y a pas que la fausse épée dans cette chambre forte. Peut-être y avez-vous vu d'autres choses ? Demanda Harry. Son cœur battait plus vite que jamais. Il redoubla d'efforts pour rester indifférent aux pulsations douloureuses de sa cicatrice. Le gobelin commença à tortiller sa barbe autour de son doigt.
Il est contraint à notre code de parler des secrets de Gringotts. Nous sommes les gardiens de trésors fabuleux. Nous avons des devoirs envers les objets que l'on nous confie et qui bien souvent ont été façonnés par nos mains.
Le gobelin caressa l'épée et ses yeux noirs se posèrent tour à tour sur Harry, Hermione et Ron. Puis revinrent vers Harry.
Si jeune,
dit-il enfin,
pour combattre tant d'ennemis.
Acceptez-vous de nous aider ? Interrogea Harry. Nous ne pouvons espérer pénétrer là-bas sans l'aide d'un gobelin. Vous êtes notre seule chance.
Je vais y réfléchir. »
répondit Gripsek avec une lenteur exaspérante.
« Mais... »
commença Ron énervé. Hermione lui donna un coup de coude dans les côtes.
« Merci, » répondit Harry.
Le gobelin inclina sa tête bombée en guise de salut, puis replia ses jambes courtes.
« Je crois, »
dit-il en s'installant ostensiblement sur le lit de Fleur et de Bill,
« que le poisson a fait son œuvre. Peut-être vais-je enfin pouvoir dormir. Pardonnez-moi. »
« Bien sûr, » répondit Harry. Avant de quitter la pièce, cependant, il se pencha et prit l'épée de Gryffondor à côté du gobelin. Gripsek ne protesta pas, mais Harry crut voir une lueur de ressentiment dans son regard lorsqu'il referma la porte derrière lui.
« Ce petit crétin, » murmura Ron, « ça l'amuse de nous faire lanterner. »
« Harry, » chuchota Hermione en les entraînant tous les deux à l'écart de la porte jusqu'au milieu du palier encore plongé dans l'obscurité.
« Est-ce que tu penses vraiment ?» « Ce que je crois que tu penses, qu'il y a un Horcrux dans la chambre forte des Lestrange ?»«
Oui, » assura Harry.
« Bellatrix était terrifiée quand elle a cru que nous y avions pénétré. Elle était dans tous ses états. Pourquoi ? Qu'aurions-nous pu voir d'autre ? Que pensait-elle que nous ayons pu emporter ? Elle était pétrifiée à l'idée que vous savez qui vienne à la prendre. »
« Mais je pensais que nous cherchions des endroits où vous savez qui était allé, où il avait fait quelque chose d'important, »
dit Ron déconcerté.
« Est-ce qu'il a jamais mis les pieds dans la chambre forte des Lestrange ?»«
Je ne sais même pas s'il est jamais entré chez Gringotts, » répondit Harry. « Il n'avait pas d'or là-bas quand il était plus jeune, parce que personne ne lui avait rien légué. » Mais il a sûrement vu la banque de l'extérieur dès la première fois où il s'est rendu sur le chemin de traverse.
Harry ressentait des élancements dans sa cicatrice, mais il n'y fit pas attention. Il voulait que Ron et Hermione comprennent son raisonnement au sujet de Gringotts avant qu'ils aillent parler à Ollivander. Je crois qu'il aurait envié quiconque avait une clé donnant accès à une chambre forte de Gringotts. Je pense qu'il aurait considéré cela comme un symbole d'appartenance au monde des sorciers. Et n'oubliez pas qu'il avait confiance en Bellatrix et en son mari. Ils étaient ses plus dévoués serviteurs avant sa chute, et ils l'ont cherché après sa disparition. Il l'a dit le soir où il est revenu, « Je l'ai entendu. »
Harry frotta sa cicatrice. « Mais je ne crois pas qu'il aurait révélé à Bellatrix qu'il s'agissait d'un Horcrux. »
Il n'avait pas non plus dit la vérité à Lucius Malfoy au sujet du journal intime. Sans doute a-t-il expliqué à Bellatrix que c'était un objet qu'il chérissait et lui a demandé de le conserver dans sa chambre forte.
« L'endroit le plus sûr du monde quand on veut cacher quelque chose, » m'a dit Hagrid, « à part Poudlard. »
Lorsque Harry eut terminé, Ron hocha la tête.
« Tu le comprends vraiment bien. »«
En partie, » répondit Harry, « par bribes. »« J'aimerais avoir compris autant de choses sur Dumbledore. »«
Mais on verra bien. Venez. »« On passe à Ollivander maintenant. »
Ron et Hermione paraissaient perplexes, mais impressionnés lorsqu'ils le suivirent jusqu'à la porte d'en face à laquelle il frappa.
Un faible « Entrez !» leur répondit.
Le fabricant de baguettes magiques était allongé sur le lit jumeau le plus éloigné de la fenêtre. Il avait été enfermé dans la cave pendant plus d'un an, et Harry savait qu'il y avait subi la torture au moins une fois. Il était émacié, les os de son visage ressortant nettement sous sa peau jaunâtre. Ses grands yeux argentés semblaient immenses dans leurs orbites creuses. Les mains qui reposaient sur la couverture auraient pu être celles d'un squelette. Harry s'assit sur l'autre lit jumeau, à côté de Ron et d'Hermione.
D'ici, on ne voyait pas le soleil se lever. La pièce donnait sur le jardin, au sommet de la falaise, et sur la tombe, fraîchement creusée.
« Monsieur Ollivander, je suis désolé de vous déranger, » dit Harry.
« Mon cher ami !»
La voix d'Ollivander était faible.
Vous nous avez sauvés. Je croyais que nous allions mourir dans cet endroit. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Jamais.
Nous avons été heureux de le faire. La cicatrice de Harry n'avait cessé de palpiter. Il savait, il en était certain, qu'il leur restait tout juste assez de temps pour parvenir au but avant Voldemort ou pour essayer de contrarier ses projets. Une bouffée de panique monta en lui. Mais il avait pris sa décision en choisissant de parler d'abord à Gripsek. Affichant un calme qu'il ne ressentait pas, il fouilla dans la bourse accrochée à son cou et en sortit les deux morceaux de sa baguette brisée. « Monsieur Ollivander, j'ai besoin d'aide. »«
Oh, tout ce que vous voudrez, oh, tout ce que vous voudrez !»
répondit le fabricant de baguettes d'une voix faible. « Pouvez-vous réparer ceci? Est-ce possible ?» Ollivander tendit une main tremblante et Harry déposa dans sa paume les deux moitiés de baguettes encore reliées par un mince filament.
« Bois de houx et plume de phénix !»
dit Ollivander d'une voix chevrotante.
« 27,5 cm, facile à manier, très souple. »«
Oui, » répondit Harry, « pouvez-vous ?»«
Oh non !»
murmura Ollivander.
« Je suis désolé, vraiment désolé, mais je ne connais aucun moyen de réparer une baguette qui a subi de tels dégâts. »
Harry s'était préparé à entendre cette réponse. Mais ce fut quand même un choc. Il reprit les deux morceaux de bois et les remit dans la bourse qu'il portait au cou. Ollivander contempla l'endroit où la baguette brisée venait de disparaître et ne détourna les yeux qu'au moment où Harry sortit de sa poche les deux autres baguettes qu'il avait emportées de chez les Malfoy. « Pouvez-vous les identifier ?» demanda Harry. Ollivander prit la première baguette et l'approcha tout près de ses yeux usés. Il la fit rouler entre ses doigts noueux, la plia légèrement.
« Bois de noyer et ventricule de dragon, »
dit-il.
« 31,8 cm, rigide. Cette baguette appartenait à Bellatrix Lestrange. »
« Et celle-ci ?» Ollivander l'examina également.
« Bois d'aubépine et... « Crin de licorne, 27 cm exactement, relativement souple. C'était la baguette de Drago Malfoy. »«
C'était ?» répéta Harry. « Elle ne l'est plus ?»«
Peut-être que non, si vous l'avez prise. »«
En effet. »«
Ah, alors, elle est sans doute à vous. » »« Bien sûr, la manière de s'en emparer a une certaine importance. » « Beaucoup de choses dépendent également de la baguette elle-même. Ah, en général, cependant, quand une baguette a été conquise, elle change d'allégeance. »
Il y eut un silence qui ne laissa plus entendre que le son lointain des vagues s'écrasant contre le rivage. « Vous parlez des baguettes comme si elles avaient des sentiments, » remarqua Harry, « comme si elles pouvaient penser par elles-mêmes. »
« C'est la baguette qui choisit son sorcier, »
répondit Ollivander.
« Voilà au moins une notion indiscutable pour tous ceux d'entre nous qui ont étudié l'art des baguettes magiques. »«
Mais on peut quand même utiliser une baguette qui ne vous a pas choisi, non ?» fit observer Harry.
« Oh oui, si vous êtes un vrai sorcier, vous pourrez toujours canaliser votre énergie. » à travers presque tous les instruments, mais les meilleurs résultats sont toujours obtenus lorsqu'il existe une forte affinité entre le sorcier et sa baguette. Ces connexions sont complexes, une attirance de départ, puis la recherche mutuelle d'une certaine expérience, la baguette apprenant du sorcier tout comme le sorcier apprend de la baguette.
On entendait le flux et le reflux de la mer dans un bruit régulier, mélancolique. « J'ai pris cette baguette à Drago Malfoy par la force, » expliqua Harry. « Puis-je l'utiliser en toute sécurité ?»«
Oh, je pense, oui. La possession des baguettes est gouvernée par des lois subtiles. » Mais la baguette qui a été conquise se plie généralement à la volonté de son nouveau maître.
C'est donc de celle-ci que je devrais me servir, dit Ron en sortant de sa poche la baguette de queue de verre qu'il tendit à Ollivander.
Bois de châtaignier et ventricule de dragon, 23 centimètres, cassante. J'ai été obligé de la faire pour Peter Pettigrew, peu après mon enlèvement. Oui, en effet, si vous l'avez gagnée au combat, elle est plus susceptible qu'une autre de vous obéir, et de vous obéir docilement.
C'est valable pour toutes les baguettes, n'est-ce pas ? Demanda Harry.
Il me semble, oui,
répondit Ollivander, ses yeux protubérants fixés sur Harry.
Vous posez des questions profondes, monsieur Potter. L'art des baguettes constitue un domaine complexe et mystérieux de la magie.
Il n'est donc pas nécessaire de tuer son ancien propriétaire pour prendre pleinement possession d'une baguette, interrogea Harry. Ollivander déglutit.
Nécessaire ? Oh non ! Non, je ne dirais pas qu'il est nécessaire de tuer.
Il existe pourtant des légendes, reprit Harry. En même temps que le rythme de son cœur s'accélérait, la douleur de sa cicatrice devenait plus intense. Harry était certain que Voldemort avait décidé de mettre son idée en pratique. Des légendes à propos d'une baguette, ou de plusieurs baguettes qui sont passées de main en main à la suite d'un meurtre. Ollivander pâlit. Son visage avait pris une teinte gris clair sur son oreiller d'une blancheur de neige, et ses yeux étaient devenus énormes, injectés de sang, écarquillés par la peur.
« Il n'existe qu'une seule baguette de cette nature, » murmura-t-il.
« Et vous savez qui s'y intéresse, n'est-ce pas ? » demanda Harry.
Comment ? »
murmura Ollivander d'une voix éraillée en jetant à Ron et à Hermione un regard suppliant comme un appel au secours.
« D'où tenez-vous cela ?»
Il voulait que vous lui expliquiez comment surmonter la connexion qui lie nos deux baguettes, dit Harry. Ollivander parut terrifié.
« Il m'a torturé. Il faut me comprendre. Le sortilège de Loris, je n'avais pas d'autre choix que de lui dire ce que je savais, ce que je devinais.
« Je comprends, répondit Harry. Vous lui avez parlé des plumes de phénix jumelles. Vous lui avez dit qu'il devrait emprunter la baguette d'un autre sorcier. » Ollivander sembla horrifié, pétrifié par l'étendue de ce que Harry savait. Il acquiesça d'un lent signe de tête. « Mais ça n'a pas marché, » poursuivit Harry. « Ma baguette l'a emportée sur celle qu'on lui avait prêtée. Vous en connaissez la raison ?» Avec la même lenteur, Ollivander hocha à nouveau la tête en signe de dénégation cette fois.
« Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Cette nuit-là, votre baguette a agi d'une manière unique. » La connexion entre les cœurs semblables de deux baguettes magiques est extraordinairement rare, mais la raison pour laquelle la vôtre a brisé celle qu'il avait empruntée, je ne la connais pas.
Nous parlions de l'autre baguette, celle qui change de main par le meurtre de son propriétaire. Quand vous savez qui s'est rendu compte que ma baguette avait eu un effet étrange, il est revenu vous voir. Et vous a posé des questions au sujet de cette autre baguette. C'est bien cela.
Mais comment le savez-vous ?
Harry ne répondit pas.
Oui, oui,
murmura Ollivander.
Il voulait savoir tout ce que je pouvais lui dire sur la baguette qu'on désigne sous les divers noms de bâton de la mort, baguette de la destinée ou baguette de sureau.
Harry jeta un regard en biais à Hermione. Elle paraissait abasourdie.
Le seigneur des ténèbres,
continua Ollivander, d'une voix étouffée, apeurée,
a toujours été satisfait de la baguette que j'avais faite pour lui. Boisdif, et Plume de Phénix, 33,75 cm, jusqu'à ce qu'il découvre la connexion entre les deux cœurs jumeaux. Maintenant, il en cherche une autre plus puissante qui sera le seul moyen de vaincre la vôtre.
Mais il saura bientôt, si ce n'est déjà fait, que ma baguette est cassée et irréparable, dit Harry à mi-voix.
Non,
s'exclama Hermione effrayée.
Il ne peut pas le savoir, Harry. Comment pourrait-il ?
Priori incantatum, l'interrompit Harry. Nous avons laissé chez les Malfois ta baguette et la baguette de Prunelier, Hermione. S'ils les examinent avec attention, en reproduisant les sortilèges qu'elles ont jetés récemment, ils verront que la tienne a brisé la mienne. Ils verront que tu as essayé en vain de la réparer et ils s'apercevront que depuis ce moment, je me suis servi de la baguette de Prunelier. Le peu de couleur qu'Hermione avait retrouvée depuis leur arrivée dans la maison avait quitté son visage. Ron lança à Harry un regard de reproche et dit « Ne nous inquiétons pas de ça maintenant, hein ?» Mais M. Ollivander intervint.
« Ce n'est plus seulement pour vous détruire, M. Potter, que le Seigneur des Ténèbres cherche la baguette de sureau. Il est décidé à la posséder parce qu'il croit qu'elle le rendra véritablement invulnérable. »
« Et ce sera le cas ?»
« Le possesseur de la baguette de sureau doit toujours craindre d'être attaqué, »
répondit Ollivander.
« Mais l'idée que le Seigneur des Ténèbres puisse disposer du bâton de la mort est, je dois l'avouer, redoutable. »
Harry se rappela soudain que, lors de leur première rencontre, il n'était pas très sûr d'avoir éprouvé une grande sympathie pour M. Ollivander. Aujourd'hui encore, après qu'il eût été torturé et emprisonné par Voldemort, il semblait autant captivé qu'horrifié à la pensée que le mage noir puisse posséder cette baguette.
Vous pensez vraiment que cette baguette existe, monsieur Ollivander ?
Demanda Hermione.
Oh oui,
répondit-il.
Oui, il est parfaitement possible de reconstituer le parcours de la baguette à travers l'histoire. Il y a bien sûr des périodes, et elles sont parfois longues, pendant lesquelles elle disparaît temporairement, perdue ou cachée. Mais elle revient toujours à la surface. Elle possède certaines caractéristiques que savent identifier ceux qui connaissent bien les baguettes magiques. Il existe des relations écrites, certaines obscures, que moi-même et d'autres fabricants de baguettes, nous faisons un devoir d'étudier. Elles ont un accent d'authenticité.
Donc, vous ne pensez pas que ce soit un conte de fées ou un mythe ? Demanda Hermione avec espoir.
Non, répliqua Ollivander. Que le meurtre soit ou non est nécessaire pour qu'elle passe d'un propriétaire à un autre, je n'en sais rien. Son histoire est stranglante, mais cela est peut-être dû au fait qu'il s'agit d'un objet infiniment désirable qui soulève des passions chez les sorciers. D'une puissance considérable, dangereuse. En de mauvaises mains, elle représente un objet d'extraordinaire fascination pour tous ceux d'entre nous qui étudie le pouvoir des baguettes magiques.
Monsieur Ollivander, reprit Harry, vous avez dit à vous savez qui que Grégorovitch était en possession de la baguette de sureau, n'est-ce pas ? Ollivander devint, si c'était possible, encore plus pâle. On aurait cru un fantôme. Il déglutit avec difficulté.
Mais comment ? Comment avez-vous ?
Peu importe comment, je le sais, répliqua Harry. Il ferma brièvement les paupières sous la brûlure de son front, et pendant quelques secondes, il eut la vision de la rue principale de Préaulard, où il faisait encore nuit, car elle était située beaucoup plus au nord. Vous avez dit à vous savez qui que Grégorovitch possédait la baguette ?
C'était une rumeur,
murmura Ollivander.
« Une rumeur qui circulait il y a des années et des années, bien avant votre naissance. Je crois que c'est Grégorovitch lui-même qui a commencé à la répandre. Vous comprenez combien il pouvait être bénéfique pour ses affaires de laisser entendre qu'il étudiait et reproduisait les qualités de la baguette de sureau.
« Ah oui, oui, je comprends, » dit Harry. Il se leva. « Monsieur Ollivander, encore une dernière chose. Ensuite, nous vous laisserons vous reposer. Que savez-vous des reliques de la mort ?»«
Les quoi ?»
s'étonna le fabricant de baguettes, visiblement décontenancé.
« Les reliques de la mort ?»«
J'ai bien peur de ne pas savoir de quoi vous parlez. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a un rapport avec les baguettes magiques ?»
Harry scruta le visage aux joues creuses et fut convaincu qu'Ollivander ne jouait pas la comédie. Il ignorait tout des reliques. « Merci, » dit Harry. « Merci beaucoup. Nous vous laissons tranquille maintenant. » Ollivander avait l'air accablé.
« Il me torturait, » haleta-t-il. « Le sortilège de Loris. Vous n'avez aucune idée. »«
Si, » répliqua Harry. « Je sais très bien. Reposez-vous, s'il vous plaît. Merci pour tout ce que vous m'avez dit. » Il descendit l'escalier suivi de Ron et d'Hermione. Il aperçut Bill, Fleur, Luna et Dean assis autour de la table de la cuisine devant des tasses de thé. Tous levèrent les yeux vers lui lorsqu'il passa devant l'encadrement de la porte, mais il leur adressa à peine un signe de tête et poursuivit son chemin dans le jardin, Ron et Hermione toujours sur ses talons. Le tertre rougeâtre qui recouvrait le corps de Dobby se trouvait un peu plus loin, et Harry retourna devant la tombe, tandis que, dans sa tête, la douleur devenait de plus en plus intense. Il lui fallait une considérable volonté à présent pour se fermer aux visions qui s'imposaient à son esprit, mais il savait qu'il n'aurait plus à résister très longtemps. Il céderait bientôt, car il avait besoin de savoir si sa théorie était exacte. Il n'avait plus qu'un dernier et bref effort à faire, le temps de donner des explications à Ron et à Hermione. « Grégorovitch possédait la baguette de sureau il y a très longtemps, » dit-il. « J'ai vu, vous savez qui, essayer de le retrouver. Lorsqu'il y est parvenu, il s'est aperçu que Grégorovitch ne l'avait plus. Elle lui avait été volée par Grindelwald. Comment Grindelwald avait-il découvert qu'elle était chez lui, je n'en sais rien. Mais si Grégorovitch a été assez stupide pour en répandre la rumeur, ça n'a pas dû être si difficile. » Voldemort était arrivé à Poudlard. Harry le voyait debout devant le portail. Il voyait aussi une lampe approcher en se balançant dans l'obscurité qui précédait l'aube. Grindelwald s'est servi de la baguette de sureau pour accéder à la puissance. Et quand il est parvenu au sommet du pouvoir, Dumbledore a compris que lui seul avait la force de l'arrêter. Il s'est alors battu en duel contre Grindelwald. Il l'a vaincu et il a pris lui-même la baguette de sureau.
C'était Dumbledore qui avait la baguette de sureau, s'étonna Ron. Mais alors, où est-elle maintenant?
À Poudlard, répondit Harry, qui luttait pour demeurer avec eux dans le jardin, au sommet de la falaise.
Mais dans ce cas, allons-y, dit Ron d'un ton pressant. Harry, allons-y et prenons-la avant lui.
Trop tard, répliqua Harry. Il ne put s'empêcher de se prendre la tête entre les mains pour l'aider à résister à la douleur.
« Il sait où elle est. Il y est en ce moment même. »«
Harry !» s'exclama Ron avec fureur. « Depuis quand sais-tu tout cela? Pourquoi avons-nous perdu tout ce temps? Pourquoi as-tu parlé à Gripsec en premier? On aurait pu aller. On peut toujours aller. »«
Non !»
coupa Harry. Il s'effondra à genoux dans l'herbe.
« Hermione a raison. » Dumbledore ne voulait pas que la baguette me revienne. Il ne voulait pas que je la prenne. Il voulait que je retrouve les Horcruxes.
Enfin quoi, la baguette invincible, quoi? Harry!
Gémit Ron.
Je ne suis pas censé m'en occuper. Je suis censé m'occuper des Horcruxes.
À présent, tout était froid et sombre. Le soleil était à peine visible à l'horizon. De son pas souple, il marchait aux côtés de Rogue, traversant le parc en direction du lac.
« Je te rejoindrai bientôt, château !»
dit-il de sa voix aiguë et glacée.
« Laisse-moi maintenant !»
Rogue s'inclina et repartit le long du chemin, sa cape noire flottant derrière lui. Harry avançait lentement, attendant que sa silhouette ait disparu. Il ne fallait pas que Rogue, ou quiconque d'autre d'ailleurs, voie où il allait. Mais il n'y avait aucune lumière aux fenêtres du château, et de toute façon, il pouvait se cacher. En un instant, il jeta sur lui un sortilège de désillusion qui le dissimula même à ses propres yeux. Il continua à marcher le long du lac, contemplant les contours du château bien-aimé, son premier royaume, le seul droit acquis à sa naissance. Elle était là, au bord du lac, se reflétant dans les eaux sombres, la tombe de marbre blanc, tache superflue dans le paysage familier. Il éprouva à nouveau cet accès d'euphorie, contrôlé, cette détermination grisante à détruire. Il leva la vieille baguette en bois d'if, que ce soit là le dernier acte d'importance qu'elle accomplirait lui paraissait particulièrement approprié. La tombe se fendit en deux et s'ouvrit sur toute sa longueur. La silhouette enveloppée d'un suaire était aussi longue et mince que de son vivant. Il leva à nouveau la baguette. Le linceul se détacha. Le visage était translucide, pâle, émacié, mais presque parfaitement conservé. Ils avaient laissé ses lunettes sur son nez crochu. Il éprouva un sentiment de dérision amusé. Les mains de Dumbledore étaient croisées sur sa poitrine, et elle était là, coincée, au-dessous, enterrée avec lui. Ce vieil idiot avait-il imaginé que le marbre ou la mort protégerait la baguette? Avait-il pensé que le seigneur des ténèbres aurait craint de violer sa sépulture? La main, semblable à une araignée, plongea et arracha la baguette de l'étreinte de Dumbledore. Au moment où il s'en saisit, une pluie d'étincelles jaillit de son extrémité, scintillant au-dessus de la dépouille de son dernier possesseur. Elle était prête, enfin, à servir un nouveau maître.